Donc, comme Fanny le soulignait, je devais originellement faire une communication qui toucherait autant au sitcom qu'au stand-up, à la comédie, mais là, j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que j'étais vraiment ambitieuse. Alors, j'ai recentré ma présentation uniquement autour de Broad City parce que c'est un péché mignon, la bonne expression qui va être péché. Bon. Il sera néanmoins encore question d'humour et de genre et de femme ingouvernable, ça, c'est sûr. J'ai envie de commencer aujourd'hui en vous partageant une sorte d'épiphanie, quelque chose que j'ai vécu il y a environ 4 ans en allant au cinéma. Je suis allée voir le film Bridesmaid, suivant les recommandations de mon groupe de gars. Je pense que dans le contexte de cette communication, c'est une spécification pertinente. J'avais manqué notre sortie hebdomadaire de mardi cinéma Saint-Piast et j'avais du rattrapage à faire autour de ce film pour lequel il ne se pouvait plus d'éloge. Kristen Wiig est hilarante, c'est meilleur que The Hangover, enfin un chick flick qui est vraiment drôle. Donc, la prémisse m'intriguait. Mes amis au masculin avaient trouvé un film de filles, mettons ça en guillemets pour le moment, aussi drôle, sinon plus que la très populaire et très masculine comédie The Hangover. Ma curiosité était piquée. Les filles pouvaient donc être drôles. Bon, si durant le film plusieurs moments m'ont plu, une scène en particulier m'a fait vivre une espèce de ce que j'appelle une épiphanie. Et aujourd'hui, cette scène me servira de prémisse. Donc, Bridesmaid, c'est l'histoire assez classique pour celles qui ne la connaissent pas. Dani, jouée par Kristen Wiig, donc, une trentenaire à la vie terne, un peu pathétique en amour, en amitié, au travail. Et elle se retrouve demoiselle d'honneur pour le mariage de Lillian, sa meilleure amie. Mais elle se retrouve à devoir composer avec le caractère des autres filles demoiselles d'honneur, et tout particulièrement, pardon, avec celui d'Hélène, exemple de classe et de raffinement, ce qu'elle n'est pas. Et Hélène deviendra sa némésis tout au long du film. À un moment du récit, Annie, désirant impressionner tout le groupe, amène les filles donc à un restaurant brésilien assez louche. Suite au repas, les futures demoiselles d'honneur se dirigent vers un magasin, lui, très huppé, pour tenter de trouver des robes. Or, au milieu de l'essayage, elles se rendent compte à la dure que la nourriture du restaurant ne devait pas être très fraîche. S'ensuit, au milieu de l'essayage, une espèce de cavalcade de flatulences, de problèmes digestifs évidents. Et bientôt, nous voyons assez graphiquement les demoiselles d'honneur avoir d'immenses troubles intestinaux dans le très chic magasin. L'une d'elles dira d'ailleurs, en courant vers la salle de bain, « I don't really care which dress we pick, I just need to get off this white carpet. » Et une autre, assise dans le lavabo, faute de toilette suffisante pour toutes, dira « It's coming out of me like lava. » La scène se conclut avec la future mariée, comme vous la voyez à l'écran, qui sort du magasin en courant, dans l'espoir d'arriver aux toilettes du commerce adjacent avant qu'il ne soit trop tard. Elle terminera sa course assise au milieu de la rue, son corps se relâchant dans sa robe à plusieurs milliers de dollars. Cette scène m'a fait vraiment immensément plaisir. Si le film a des bons coups et d'autres moins convaincants, je me souviens toutefois que tout de suite après la scène, dans le cinéma, j'ai dit « Enfin, on nous montre que les filles aussi, ça fait caca. » Donc, heureusement pour vous, heureusement pour moi, j'ai essayé d'étoffer ma réflexion depuis. Cette manière de montrer le corps féminin en train d'accomplir ses plus triviales besognes alors qu'il est enveloppé de froufrou haute couture, de montrer l'urgence des fonctions corporelles qui triomphent sur le bon goût et l'étiquette, vraiment, il me semblait que Bridesmaid s'aventurait là où l'humour au féminin n'allait pas souvent, même encore aujourd'hui, bien qu'on soit en 2016, comme dirait l'autre. Pourquoi donc? Dans son ouvrage sur l'humour des femmes au Québec, paru il y a déjà 14 ans, quand j'ai regardé la date, 14 ans, Lucie Joubert lançait à l'époque des pistes de réflexion qui sont malheureusement une ritournelle encore trop familière à nos oreilles. Une femme drôle, c'est forcément une femme laide. Elle fait des blagues parce qu'elle est incapable de séduire, parce qu'elle a, c'est obligé, un physique ingrat. Une femme qui parle trop fort, c'est une femme vulgaire, c'est une femme qui se donne en spectacle, c'est une femme qui manque cruellement de féminité. Heureusement, vous savez comme moi que de nombreuses femmes ne s'en sont pas formalisées et que la scène de l'humour est tout de même occupée par sa part de femmes humoristes. On vient d'en voir des excellents exemples. Cependant, malgré les années qui passent et les avancées qui sont faites, il semblerait qu'il existe encore un deux poids, deux mesures quand il est question de thématiques humoristiques. Si Joubert rappelle qu'en termes de thèmes, les interdits qui pèsent sur les femmes humoristes au Québec ne sont pas aussi présents chez nos voisines états-uniennes, elle souligne tout de même que d'un côté comme de l'autre de la frontière, certains sujets sont plus tabous que d'autres, surtout en ce qui a trait à ce qu'elle nomme un humour du bas corporel. Et j'aurais envie de rajouter du bas corporel féminin. Car s'il n'est déjà pas élégant pour une femme de faire une blague de flatulence à une heure de grande écoute, il est carrément du domaine de la science-fiction de faire une blague de flatulence vaginale. Je pense heureusement que dans l'univers du sitcom ou de la comédie américaine, il y a un petit vent de fraîcheur. Pun non intended ici, vraiment. Cette impression est née en moi en voyant Bridesmaid, et qui a été d'ailleurs co-scénarisée par une femme, hein, j'aurais dû le dire plutôt, Kristen Wiig a travaillé là-dessus, et c'est confirmé quelques années plus tard en découvrant Broad City. un sitcom créé et mettant en vedette A.B. Jacobson et Ilana Glazer. Ce sitcom avait été originellement développé en web-série sur YouTube. Sa popularité a été si fulgurante qu'elle se voit adaptée à la télé pour la chaîne Comedy Central en 2013. À ce jour, Glazer et Jacobson signent encore plus de la moitié des épisodes comme scénaristes, et c'est heureux parce que lorsqu'elles ne le font pas, ce n'est pas toujours un succès. J'y reviendrai. C'est quoi Broad City? C'est deux jeunes femmes judéo-américaines, Abby et Ilana, les personnages portent donc les noms de leurs créatrices, dans la vingtaine, Amy, qui vivent des aventures au quotidien dans la grande pomme. Bon, c'est une prémisse assez simple qui pourrait être celle de Sex and the City, The Girls. Mais là où Broad City se démarque, à mon sens, c'est d'abord dans l'intelligence, l'irrévérence et le trait right in your face du traitement du corps féminin dans ses fonctions les plus mécaniques, mais aussi dans l'amitié pilier inébranlable existant entre les deux femmes. Beaucoup se sont mis à comparer la série avec Girls, hein? Il est vrai qu'à une époque, on a abondamment souligné la manière dont Lena Dunham proposait une relecture des représentations du corps féminin au petit écran. Cela dit, je ne peux pas faire d'analyse comparative entre Girls et Broad City ici. Qu'il suffise de dire qu'avec Broad City, il me semble qu'on est rendu ailleurs. La série nous présente un imaginaire du corps de la femme qui est vraiment libre de toute contrainte, sociale, culturelle, individuelle, sexuelle, mais d'une façon désintéressée, carrément désinvolte. La nudité est omniprésente, inoubliable, mais elle est extrêmement banale et banalisée. Là où Girls semble dire aux téléspectateurs « voici mon corps », que vous l'aimiez ou non, regardez-le, 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 Broad City le rend extrêmement commun, quotidien, comme posé là. Prenons par exemple le premier épisode de la deuxième saison, alors que Ilana et Abby se sauvent d'une calcule new-yorkaise pour profiter de l'air conditionné d'un Top Shop, donc d'un magasin grande surface. Pendant qu'Abby essaye des jeans dans une cabine, elle discute avec Ilana, qui est dans la cabine adjacente, scène classique entre deux amis qui magasinent. Debout sur la jambe droite, donc, et son pied gauche bien appuyé sur le miroir, la vulve bien en vue, Ilana se perce des points noirs, ou en tout cas ce qu'on imagine être des points noirs pour l'avoir tous fait, ou des poils incarnés, allez savoir, dans l'autre jambe en disant « Oh my God, this lighting is incredible ». C'est tout. Le focus de la scène n'est pas sur sa nudité ni sur son sexe. Les deux amis discutent de tout et de rien, et la pilosité d'Ilana est un sujet parmi les autres. Le phénomène se reproduit au courant des saisons à de nombreuses reprises, entre autres lors des scènes récurrentes qui montrent les deux amis en train de se skyper ou de se facetimer de leur appartement respectif, simplement pour discuter de tout et de rien, alors que leur corps, eux, s'occupent aussi de leurs fonctions. Donc, depuis la salle de bain, sur la toilette, dans le bain, pendant une épilation, nus dans la chambre, en train de s'habiller, elles se parlent et se regardent faire toutes ces choses, et nous, avec elles. En plus, ce qu'il y a de fascinant avec Broad City, c'est justement le choix de remettre la vulve, le vagin, au centre. Il n'y a pas un épisode, presque, je dirais, il faudrait faire le décompte, là, mais dans lequel on n'en parle pas, on ne le voit pas, on n'en rit pas, on ne le souligne pas. En tout cas, c'est partout. Et c'est intéressant parce que cet organe, ça me fait penser à ça quand tu as parlé du sable dans le vagin, en fait. On parle du vagin constamment pour diminuer ou disqualifier les femmes, alors qu'ici, il est simplement ramené, tout le temps là. Enfin... Les corps d'Ilana et Abby ne sont jamais contenus, retenus, ils sont là, tout le temps là, mais ils ne sont pas en train de participer d'une esthétique grotesque ou carnivalesque. Ils occupent tout l'espace. J'aimerais vous montrer, pour illustrer tout ça, la scène d'ouverture de la troisième saison, qui est une espèce de condensé. Voilà. Donc, la saison s'ouvre, c'est la troisième saison, celle-là, en nous montrant les protagonistes dans leur salle de bain respective durant ce qui semble être visiblement le déroulement d'une année. On voit Halloween... la Saint-Valentin même, où elles ont chacun leur moitié d'un gros chocolat en forme de cœur. Donc juste cela, c'est se réapproprier, il me semble, un lieu duquel les femmes sont généralement évacuées en humour. C'est occuper un espace qui, lorsqu'il est montré, est réservé peut-être au rituel de la mise en beauté, maquillage, coiffure, au rituel de la maternité, peut-être donner le bain aux enfants, et parfois le rituel de l'amour, mais seulement si c'est hyper léché, il me semble, on voit pas trop la douche, et en tout cas, c'est pas une toilette sale comme celle qu'on vient de voir. Ici, les deux cuvettes de toilette prennent un rôle déterminant. Elles sont placées au centre de l'image et se font complices des deux protagonistes. C'est elles qui nous rappellent que les filles de Broad City pètent, pissent, saignent, ont des wedgies, se fouillent dans le nez, se rasent, dansent, fument, s'épilent, ont du poil, que dis-je, ont même un anus. Donc, et comme le souligne Kathleen Rowe, on va y arriver, hein, c'est elle qui nous rassemble aujourd'hui ici. Farting, belching and nose picking convey a similar failure or refusal to restrain the body. While boys and men can make controlled use of such uncontrollable bodily function to rebel against authority, such an avenue of revolt is generally not available to women. But if it should ever come into women's repertoire, it will carry great power, since it directly undermines the sacredness of woman's body. Il semble que c'est exactement ça que font les filles de Broad City épisode après épisode. Elles vont démonter l'aspect sacré du corps. En détournant nos attentes quant au corps féminin et à ses représentations, et même ses invisibilisations, elles le profanent. Et je m'amuse ici avec l'idée de profanation telle que la pense Agamben, qui souligne que profaner ne signifie pas seulement abolir et effacer les séparations, mais apprendre à en faire un nouvel usage, à jouer avec elles. Et voilà pour moi où se situe le cœur de cette série. Ilana et Abby jouent constamment. Rien n'est sérieux avec elles, ni leur emploi, ni les vêtements qu'elles choisissent, ni même leurs amoureux et leurs amoureuses, leurs rêves, leurs ambitions. Rien n'est sérieux. Elles jouent avec les conventions et elles mettent leur corps en jeu de manière désintéressée. Et lorsqu'elles mettent leur nudité au grand jour, lorsqu'elles se masturbent, lorsqu'elles dansent au milieu de la rue, lorsqu'elles fument trop de potes, lorsqu'elles ont des relations sexuelles, elles jouent. Elles libèrent la possibilité d'une forme particulière de négligence qui ignore la séparation, ou plutôt en fait un usage particulier, pour reprendre les mots d'Agamben. Or, qui joue risque de perdre. Agamben nous met en garde sur la décadence potentielle du jeu comme organe de la profanation. Il rappelle que si le jeu libère l'humanité de la sphère du sacré, celle-ci n'est pas pour autant abolie. Donc si à même le jeu, on tente de retrouver l'objet sacré premier, donc cet usage d'avant la séparation, avec quelle que soit la forme de cérémonie, on risque de se retrouver embourbé dans une toute nouvelle liturgie. Et la profanation ne se fera pas, l'objet est retourné au sacré sans qu'un nouvel usage ne soit vraiment créé. J'aimerais vous montrer une deuxième scène de Broad City qui me semble bien montrer l'usage de la profanation. C'est un épisode désormais culte de la saison 1. On voit Abby qui parvient finalement à obtenir un rendez-vous galant avec son voisin de palier, Jérémy, dont elle est obsédée pour un ou deux épisodes. Je vais vous montrer la scène au complet, mais bon, c'est 3 minutes, ça va être un petit peu trop long. Je vais vous montrer la première partie. Allons-y. Bon, ben tout est inversé dans cet épisode. Premier élément évident, bien sûr, est celui de l'effacement des rôles genrés qu'entraîne l'apparition du gonmiché. Qui plus est, l'ensemble des événements repose sur un quiproquo, un jeu, si vous voulez. Tout arrive parce que Abby dit « maybe switch to mix it up », voulant dire « maybe switch position », et que Jérémy comprend « maybe switch roles ». En plus, alors que la culture pop représente trop souvent le sexe anal comme quelque chose de douloureux et démasculin lorsque vécu par les hommes, ici, la série recadre la pratique sexuelle comme quelque chose d'agréable pour les deux partenaires, mais en insistant sur le fait que c'est particulièrement glorieux et enviable pour la femme, la danse de la victoire d'Ilana à l'appui. Ce qui est somme toute intéressant en considérant que les tropes de la pornographie hétérosexuelle traditionnelle montrent la pénétration anale comme quelque chose que l'homme fait à la femme, bien souvent contre son gré, ou en tout cas sans qu'elle y prenne grand plaisir. Ou alors, on retrouve également le trope des deux femmes s'amusant avec des jouets sexuels ensemble, mais toujours pour le plaisir de l'homme, sans que celui-ci soit à l'écran ou de l'autre côté de l'écran, en train de les regarder. Ici, Ilana le fait clairement comprendre, c'est une expérience agréable, enrichissante et sexuellement enlevante pour Abby. D'ailleurs, plus tard dans l'épisode, Ilana explicitera à Abby que pour elle, it's a dream come true, ça elle l'a dit, vous l'avez entendu, et célèbre l'idée de penser à sa meilleure amie qui pénètre Jeremy's hairy, adorable little butthole et qu'elle pense à elle, plowing it like a queen. Donc, qu'Ilana parle d'Abby en train de plow, donc labourer Jeremy, chant syntaxique généralement réservé pour décrire le rôle fertile, très passif des femmes dans la reproduction, moi, je trouve ça fantastique. On va sauter ça ici. Outre ce... Bon, je voulais vous parler d'un faux pas, on n'en parlera pas. Donc, vraiment, il me semble que les filles de Broad City occupent une place dans le siège de la Unruly Woman, judicieusement traduite aujourd'hui comme femme ingouvernable. La Unruly Woman de Roe est trop grosse, trop drôle, trop exubérante, trop vieille, trop rebelle, toujours trop. Elle renverse les conventions sociales et en traverse constamment les frontières, passant d'un côté ou de l'autre, sans se soucier des conséquences. Que ce soit à cause de leurs incessantes logorées, de leurs vêtements mésadaptés. Il y a toute une partie de Broad City sur le choix des costumes des personnages. Ou leur corps omniprésent, leur consommation abusive de drogue, leur mimique et leur slang coloré qu'elles seules comprennent parfois. Abby et Ilana représentent cet état de trop dont parle Ro. Corps ou langage, elles débordent de partout. En plus, elles se placent sans gêne dans des situations disgracieuses, humiliantes, honteuses. Il est fascinant de voir comme elles n'en sont jamais embarrassées très longuement. La série ne cherchait pas à capitaliser sur la pitié, l'empathie ou le jugement du spectateur. L'estime de soi des personnages n'est pas ébranlée, remise en doute. Abby et Ilana ne traversent pas vraiment de crise existentielle, elles ne vivent pas d'échecs, elles ne sont pas honteuses de ce qu'elles sont ou même de ce qu'elles ne font pas, parce qu'elles ne font pas grand-chose. Leur gêne, leur honte, leur colère, leur tristesse, rien ne dure longtemps et elles s'en foutent. Alors si rien ne dure, pourquoi est-ce qu'on écoute cette série? Au-delà de l'ingouvernabilité que les deux femmes représentent, pourquoi y revient-on? Pourquoi est-ce que j'entends tout le monde me dire « Oh my God, Abby, Ilana ». Eh bien, s'il n'y a pas de drame, de suspense, de romance, c'est quoi? C'est drôle, oui, d'accord, mais encore. Je crois que si nous revenons semaine après semaine, c'est surtout pour voir Ilana et Abby être ensemble. les voir à chaque épisode être follement éprises d'amitié l'une de l'autre. Car si peu de choses durent dans Broad City, une seule demeure originelle et increvable, tout peut bien passer parce qu'au cœur se tient le duo inébranlable d'Abby et Elena. Et j'aimerais ouvrir là-dessus en terminant. Je crois que cette amitié pourrait être la forme la plus ingouvernable parmi les ingouvernables. Roe a exploré l'histoire de la figure de la Unruly Woman en étudiant le cas de Roseanne Barr-Arnold et de Miss Piggy, puis ensuite elle s'est intéressée à ses mutations, ses évolutions, en se penchant sur la figure de la Unruly Girls dans les années 90, la jeune fille révoltée, girl power et tout. Je me demande si ce que nous présente Broad City ici ne serait pas quelque chose de l'ordre d'un Unruly Friendship. Question de filer maladroitement la métaphore. Sorte d'amalgame entre un sisterhood doublé d'un girl power et d'une ambiance de vestiaire sportif. Les filles de Broad City m'ont donné envie d'être leur sœur, leur amie, leur amante. Abby et Elena sont plus obsédées l'une par l'autre qu'elles ne le sont par leur job ou leurs amants et leurs amantes respectives. Elles se valorisent constamment l'une l'autre. Elles se disent à chaque épisode combien elles se trouvent belles, intelligentes et drôles. Il y a presque un épisode sur deux, Elena parle du derrière de Abby, qui est « the ass of an angel ». Les idées de l'autre sont toujours excellentes, alors que clairement elles ne le sont pas, parce que c'est souvent ça qui entraîne toutes les péripéties désastreuses. Et la seule histoire d'amour dans Broad City, c'est celle entre Elena et Abby. L'intimité de leur relation n'est pas juste drôle, ni même intense, elle est radicale. Je n'ai pas encore rencontré de série qui soit aussi constante dans sa façon de placer les privilèges de l'amitié avant toutes les autres petites pacotilles de la vie adulte que sont la job, l'argent, le sexe ou l'amour. Elena et Abby, c'est les Thelma et Louise d'aujourd'hui. C'est la figure de la bromance reprise au féminin. C'est l'entrée triomphale de la bromance. C'est une amitié au carré, sans retenue, sans barrière, sans garde-fou. Une amitié qui hausse la voix, qui dérange, qui gêne, qui se montre à voir et qui s'en fout. C'est ensemble qu'elles s'amusent et c'est ensemble qu'elles jouent. Et c'est une fois réunies que la profanation advient. La série accorde peu d'attention au manque de constance de ses protagonistes sur leur je-m'en-foutisme. Elle ne tente pas de l'excuser, de la problématiser. Et c'est heureux comme ça. Parce qu'à l'image de l'île qu'elles habitent, le monde d'Abby et Elena est insulaire. New York est leur royaume et elles en sont les souveraines, chacune, pour citer Elena, la queen de l'autre. Merci.